Bonjour à tous, un nouveau numéro de questions d'actualité Formestivale. On s'approche de la fin, encore une petite semaine à pouvoir se parler avant de vous retrouver au Monde d'aujourd'hui tous les vendredis à 11h30 et avant que vous retrouviez aussi Jean-Philippe Trottier à questions d'actualité à la barre normale tous les du lundi au vendredi de 12h, à partir de 12h15. On se retrouve aujourd'hui avec Éric Pronovost, le directeur général de la Fédération des personnels de soutien scolaire du Québec. On va parler des difficultés de sa profession dans les difficultés générales du monde de l'éducation avec cette rentrée en cours. Bonjour Monsieur Pronovost.
Bonjour, bonjour.
Avec vous, on va revenir sur la pénurie qui touche votre secteur et donc vos membres. Une pénurie dans le secteur de l'éducation qui n'est pas seulement, on avait déjà pu parler avec les professeurs ou avec les directeurs d'école, qui n'est pas seulement concentrée que sur ces deux axes de des professions de l'éducation, mais aussi sur le personnel de soutien. Ma première question, c'est pour un peu éclairer nos auditeurs, quel est le but de la mission de votre fédération, mais aussi quand on parle de personnel de soutien, sur quel type d'emploi on se concentre?
Oui, ben écoutez, la Fédération du personnel de soutien scolaire représente 33 500 membres, OK? Et c'est des membres qui sont regroupés dans 81 corps d'emploi différents. OK, je vous donne quelques exemples parce que faire le tour des 81,
ça serait très long.
Mais je vous parle des secrétaires d'école, des concierges, des techniciennes, techniciens en éducation spécialisée, des techniciennes en service de garde, des ouvriers d'entretien, des plombiers, tout ce qui est secrétariat, secrétaire administratif, tous ces gens-là, des préposés aux élèves handicapés, des éducateurs de service de garde, et j'en parle. Donc, vous comprendrez que c'est énormément de gens qui gravitent autour de l'école, mais aussi dans l'école.
Qui gravitent autour de l'école et dans l'école. Donc, on va vraiment du manuel à l'administratif, à l'accompagnement et au soutien. Et ce sont des éléments extrêmement importants parce que c'est le fonctionnement de l'école qui est en jeu et aussi le fonctionnement et la bonne réussite scolaire pour beaucoup d'élèves, que ce soit des élèves bien prédisposés. Tout le monde a toujours besoin de secteur administratif, des bons locaux, mais aussi beaucoup des élèves en besoin. Et cette question de besoin d'élèves ayant besoin d'accompagnement d'une personne aux côtés d'eux en tout temps afin de réussir leur parcours scolaire parce qu'ils ont un retard, parce qu'ils ont différents handicaps et autres, et autres, et autres. Et on en passe. Il y a tellement d'aptitudes qui sont prises en compte dans ce niveau-là. Il y a eu énormément de problèmes dans les deux dernières années avec la COVID. Il y a un besoin, pas de rattrapage, mais un besoin de retrouver un bon accompagnement et la pénurie met en danger cela.
Effectivement, et quand on vous parle d'école, on vous parle d'école primaire, des gens qu'on représente, on vous parle des écoles secondaires, on vous parle de la formation d'adultes, des écoles de métiers professionnels.
On est présent à toutes les strates.
Et on vous parle des centres de services scolaires, des centres administratifs. On est partout. Donc, c'est des gens qui sont essentiels dans tout ce qu'ils font au quotidien. Donc, c'est...
Il faut que les gens s'en rendent compte.
Oui, il faut que les gens le sachent, ce que l'on fait, parce que on reprend souvent une phrase en disant « Ah, si... » Le concierge n'était pas là à 6 heures le matin pour ouvrir l'école et la secrétaire d'école pour ouvrir l'école le matin, ça ne fonctionnerait pas. Effectivement que ça ne fonctionnerait pas.
C'est
clair.
Toutes les chaînes d'un rouage, et c'est pour ça qu'on vous voit présent. Par exemple, la semaine dernière, vous avez fait une sortie avec les autres syndicats affiliés CSQ et CSN pour l'école en vue de la rentrée, des demandes pour les partis politiques et aussi mettre de nouveau de l'avant les problèmes de pénurie, les problèmes d'organisation qu'il y a en ce moment. On pourra revenir un peu sur ce que vous avez dit dans le cadre de cette rencontre, mais on a pu voir dans les deux dernières années beaucoup d'erreurs au niveau de l'accompagnement. D'un côté, l'école à distance rendait plus difficile l'accompagnement, la présence ou plutôt le maintien d'un bon rouage administratif en interne parce qu'on avait la distance, on avait moins de communication entre le personnel, aussi l'accompagnement, les personnels à la maison avec les parents, pas avec peut-être un professionnel qui saura mieux trouver les bons mots que le simple cocon familial pour aider au développement dans le cadre de la pratique scolaire et autre chose. Mais là, on voit, comme vous nous en parliez, déjà en mettant l'alarme en mettant l'alarme dans les derniers mois, au-delà de l'aspect de votre conférence de presse de la semaine dernière en période de pré-campagne, on voit des mêmes erreurs se répéter. Un manque d'accompagnement, problème d'austérité où on ne remplace pas les personnes qui partent à la retraite ou qui partent dans le privé, problème de personnel et d'embauche. Et donc, à la fin, ça fait une sorte d'abandon du secteur, non?
Effectivement. Puis, je recule un peu dans le passé. D'accord? En éducation, sous le règne des libéraux, 1,4 milliard en éducation qui a été coupé. Donc, vous comprendrez que c'est toujours facile pour le gouvernement en place de dire c'est la faute de l'autre. Mais effectivement, les libéraux ont fait mal à l'éducation et le personnel de soutien scolaire en a subi les premières, sur la première ligne, ont été frappés de plein fouet par cette foudre libérale-là.
Est-ce que c'est le problème de votre c'est le problème un peu de la... On préfère s'attaquer aux professions autour des profs ou des directeurs d'école et après au pire, on passe pour continuer l'austérité chez les directeurs et les professeurs. Le problème, c'est que pour les libéraux ou même pour d'autres gouvernements, vous êtes un peu la première ligne et c'est la première ligne qui doit y passer.
Puis c'est toujours plus facile de couper ces gens-là qu'on voit moins, où l'école, on réfère moins à l'école. Mais maintenant, ça change. Maintenant, c'est en train de se transformer. Parce que ce côté essentiel-là au quotidien du personnel de soutien scolaire fait que on n'a plus jamais réinvesti autant qu'on a coupé au Québec. Donc, quand on entend que, exemple, le gouvernement caquiste nous dit « J'ai investi en éducation, je m'excuse. »
Vous avez fait un rattrapage, vous avez pas fait un...
Vous avez remis des sommes, mais vous avez un rattrapage de 1,4 milliard. Donc, l'effet que ça a sur le terrain pour les membres qu'on représente, on coupe dans les services directs aux élèves, très clairement. Il y a des enfants, comme vous avez dit tout à l'heure dans votre préambule, ont des besoins, c'est des situations alarmante.
Totalement.
C'est des situations où on se dit, bon, je peux pas te donner plus que 20 heures d'accompagnement avec une éducatrice spécialisée. Je vais t'en donner juste 15 parce que je dois donner 5 à l'autre. On coupe dans les préposés aux élèves handicapés des enfants qui ont besoin de soins, comme avec un préposé aux élèves handicapés. On coupe ou on remplace pas. Quand vous parliez d'austérité tantôt, on est tanné qu'on ne soit plus remplacé. Mais on a une problématique, là. On a une pénurie de main-d'œuvre. Une pénurie de main-d'œuvre qui débute depuis près de 20 ans.
C'est les chiffres. Dans une de vos sorties de cette année, vous expliquez que cette pénurie existe depuis 20 ans, qu'elle a été aggravée par les diverses politiques qui ont eu depuis 20 ans. Et dans ces diverses politiques, vous mettez en avant l'austérité. Quand on fait de l'austérité sur l'éducation ou la santé, c'est les deux choses les plus pires où on devrait faire jamais faire d'austérité. La manière, quand on parle, surtout pour un gouvernement comme le gouvernement caquiste, ou même le gouvernement libéral de l'époque, qui malgré qu'il était fédéraliste, mettait en avant l'importance nation québécoise et autre chose. Si on veut la subsistance de la province, d'une nation et autre chose, on ne fait jamais d'austérité sur les deux secteurs qui sont l'éducation et la santé. Et ça a été une erreur absolue de le faire sur ces points-là.
C'est une erreur totale. Et là, je vais vous le dire, on entre en campagne électorale, parce qu'on va nous annoncer ça bientôt. Qu'est-ce qui va être les deux sujets à la mode?
L'éducation.
La santé et l'éducation. Oui. Là, on va nous promettre la lune.
C'est ça.
Mais là, je vous le dis, là, le personnel de soutien scolaire est tanné de ne plus être considéré. Le personnel de soutien scolaire est tanné et a le goût d'être respecté, d'être reconnu, puis de pouvoir se réaliser enfin dans des conditions de travail et des salaires intéressants. Je vais vous donner un exemple. Quand moi, je suis rentré en 94 au centre de service scolaire à Québec, parce que moi, je viens du centre de service scolaire des Premières Seigneuries à Québec, on passait deux entrevues, on passait un examen écrit, et quand on franchissait l'étape, on était heureux de travailler au centre de service scolaire, à la commission scolaire. C'était un employeur de choix.
C'est ça. Et maintenant,
le Tim Horton nous challenge maintenant.
Au niveau des conditions de travail, donc là, on a le salaire, mais aussi, est-ce qu'il y a peut-être aussi une manière comment le travail est organisé, les rapports hiérarchiques, un aspect beaucoup moins humain, beaucoup plus technocratique et robotique, tel qu'on peut le voir dans beaucoup d'administrations qui se sont centralisées dans les 20, voire 30 dernières années, où l'aspect humain s'est perdu. Et quand on voit dans le privé, où le privé propose, certes au-delà des bons salaires, une manière de fonctionner beaucoup plus à taille humaine, à échelle humaine, beaucoup moins pesante sur le moral de l'employé. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi cet aspect-là à prendre en compte?
C'est clair qu'il y a cet aspect-là à prendre en compte. Puis je vous ajoute que, en plus, le 13 mars 2019, on a répondu oui présent pour les services de garde d'urgence. On était dans un contexte de pandémie, additionné à tout ce que vous venez de me dire, là, à tout ce que je viens de vous dire. On a répondu oui, on était là. Le gouvernement a vu tout le côté essentiel est. Mais là, ce qu'on a préféré en plus, par le gouvernement, on avait besoin d'infirmières. Je ne dis pas que c'est pas correct d'avoir besoin d'infirmières. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On avait besoin de préposés.
On a
attiré des membres du scolaire vers les préposés. Ce que ça a fait, c'est qu'on a vidé notre bassin. Écoutez, là, moi, j'ai des gens là qui demandent des congés sans traitement parce qu'ils sont exténués. Ils prennent un congé à leurs frais. Ils demandent
pour faire une pause, okay? Pour faire une pause quand ils ne peuvent plus.
Prendre une pause. Les centres de services scolaires disent non à ces gens-là. Mais voulez-vous, là, je vais vous dire là, ce que j'ai su dernièrement.
Oui, bien sûr.
C'est que des centres de services scolaires, les cadres, n'autorisent pas des congés sans traitement, OK, au personnel de soutien. Par contre, ils autorisent un congé sans traitement pour venir aider au niveau d'un poste de cadre. Comprenez-vous?
Ouais.
Donc là, on se vide à la santé, on se vide à l'intérieur, dans notre propre système. Si on commence à faire ça, on n'a aucune stabilité.
Il n'y a aucune porte de sortie à la pénurie. À la fin, ça fait juste un cycle infernal où ça, un côté se vide pour l'autre, mais l'autre va se vider ensuite, etc. Et ça recommence, ça recommence, ça recommence. Et les problèmes perdurent sur le long terme sans avoir besoin d'investir, évidemment, de l'autre côté.
Effectivement. Puis je vous ramène à ce que je vous ai dit tout à l'heure. OK? Les gens là, du personnel de soutien scolaire demandent le respect. Le respect de leur tâche. OK? Le respect du personnel de soutien. Hein? De ne pas les surcharger. Parce qu'on a alourdi les tâches, parce qu'on leur demande plein d'autres tâches connexes, mais on n'a pas augmenté les heures. Ça, il faut que ça s'arrête. La reconnaissance, le travail de collaboration essentiel. Vous savez, là, vous travaillez en équipe, là, OK? Et de temps en temps, vous avez besoin d'une certaine concertation. Exactement. Vous avez besoin de travailler ensemble pour se prendre du temps pour dire quel angle qu'on lui donne, quelle stratégie, on travaille comment avec l'enfant, avec... Ben, ça se fait plus, ça. Ça se fait sur le coin de la table, quand la cloche sonne, quand tout le monde est parti. Quand... Ça se fait à une vitesse incroyable. Donc, on est toujours en mode urgence. Puis, tout ça, ben, ce qu'on se dit, la réalisation, là, elle permet que ce personnel-là puisse se réaliser dans des conditions intéressantes. Moi, là, je comprends pas. Nos solutions, là, c'est pas compliqué, là. La précarité frappe 70 % de nos membres. Donc, OK?
Meilleur salaire, meilleures conditions de travail, meilleures possibilités. Ça serait vos demandes pour la campagne à venir.
Oui. Puis écoutez bien, là, quand j'ai encore des gens qui font 7 heures par semaine, 10 heures par semaine. Quand on me dit qu'il y a une pénurie d'emplois...
En fait, il y a un surplus de temps partiel plus qu'une pénurie d'emplois.
Voyons donc. Je vous donne une statistique, OK? Là, une petite dernière, là, vous allez voir. Là, je vous donne ça. Là, écoutez.
Ouais.
Des surveillantes d'élèves au Québec. OK, là, partout au Québec, là, des surveillantes d'élèves, il y en a 21 223 surveillants d'élèves partout au Québec. D'accord?
C'est quand même beaucoup.
C'est en individuel.
Ouais.
Est-ce que vous voulez savoir en équivalent temps plein?
En équivalent temps plein, allons-y.
1850.
Donc ça veut dire qu'en fait, la majorité sont juste à temps partiel. Donc on les embauche c'est du comblage de trous plus qu'autre chose, alors qu'on pourrait utiliser ce nombre de membres pour faire vraiment du temps plein, avoir une présence en tout temps de surveillance.
C'est 91,3% de précarité.
C'est quand même incroyable.
Puis là, j'en ai d'autres. Tu sais, des techniciens en éducation spécialisée, là, au Québec, en individuel, il y en a 17 900. Ça, c'est des gens qui travaillent à régler des situations, soit de comportement, de pédagogique, en collaboration avec les profs, puis en équivalent temps plein, c'est 7 300.
C'est une problématique, surtout quand on voit au niveau de l'embauche, quand on sait comment c'est fait, le problème d'une approche comptable, de comment on va embaucher telle ou telle personne pour que ça joue sur tel ou tel bilan et tel ou tel compte, alors qu'en fait, on est plus dans l'aspect... pourquoi avoir une approche comptable dans le cadre de l'importance d'un emploi qui sert au rapport humain? Et ça, c'est un problème qui existe depuis tout le temps, qui n'est jamais réglé. Vient la question suivante, c'est en votre sortie de la semaine dernière, vous expliquez que le problème, c'est avec le ministre Roberge, par exemple, qui explique que tout le monde aura un professeur, tout le monde aura un personnel d'accompagnement, de soutien à la rentrée, il n'y aura pas de problème à la rentrée. En réponse à cela, vous expliquez que M. Roberge est jovialiste. Donc ma question qui vient à la suite de ça, c'est est-ce qu'il est vraiment jovialiste, mais surtout est-ce que c'est la bonne personne pour le job quand on voit le nombre de sorties que vous et vos différents collègues des autres syndicats ont pu faire sur ce ministre depuis sa prise en poste?
Écoutez, moi, là, dès le début, là, pour avoir eu des discussions dans sa première campagne électorale avec M. Roberge, je lui avais dit que j'étais heureux de voir quelqu'un qui avait travaillé dans une école, qui avait été enseignant, arriver enfin comme ministre de l'Éducation pour nous donner un coup de barre éducation. Bon. Force est d'admettre le personnel de soutien scolaire, je ne parlerai pas pour les enseignants, mais pour le personnel de soutien scolaire, on n'a rien réglé avec M. Roberge. M. Roberge, je peux nous dire, on a investi, on a ajouté du temps pour les récréations, on a ajouté tout le temps des miettes pour tenter de faire un pain, mais de faire à croire à la population qu'on a fait un pain avec des miettes. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les gestes concrets qu'on attend, ben M. Roberge, il est exactement au même rythme que M. Bolduc à l'époque, que M. X, M. Y, qui ont passé derrière M. Blais. Écoutez, c'est à ce rythme-là. Écoutez, là, moi, là, les chiffres que j'ai, là, en ce moment, là, j'ai essayé de trouver des centres de services scolaires, les chiffres que je vous ai donnés. Monsieur Roberge, lui, dit il y a une pénurie de 700 enseignants. Finalement, il en manque 1400. Moi, je suis autour de 5000 membres, 5000 personnels de soutien qui vont manquer à peu près partout au Québec. Dans les 33 500 que je représente, il reste encore 4-5 000 postes à combler.
Pour la rentrée.
Puis là, ben oui, Monsieur Roberge, c'est un jovialiste, parce qu'à une semaine... À une semaine de la rentrée scolaire,
alors que les chiffres sont connus.
Du monde, alors que les chiffres sont connus. Mais monsieur, je veux juste vous dire que l'année passée, à la même date, je parlais de la même chose. Et à l'autre
année d'avant, vous parliez de la même chose.
Je parlais de la même chose. Mais c'est qui comprend pas?
Ouais.
C'est qui ne prend pas la volonté politique de régler les choses?
Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on voit aussi dans d'autres secteurs. Donc c'est un problème, c'est la question de volonté, question, on va nous dire, ah, mais après il y a les moyens et autre chose, on nous sort qu'on a énormément de surplus, qu'on peut se permettre un investissement comme ça, et d'autres, non, on va préférer parler de baisse d'impôts et de choses comme ça, au lieu de parler d'investissement.
Effectivement, puis il y a même des candidats là, présentement, qui veulent devenir premier ministre du Québec, disent même, on va sabrer dans les systèmes, dans le système d'éducation.
Je vois duquel vous parlez. Sabrer.
Bon, on ne se nommera pas de nom, d'accord? Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quel est l'avenir de l'éducation?
C'est ça.
Quel est l'avenir de la santé? Moi, j'ai une préoccupation immense par des gens qui pensent tout savoir. Puis, je vais vous le dire, là, Monsieur Roberge, je m'attendais à ce que ce soit une personne qui soit bien connecté avec le milieu scolaire. OK? Oui, on en fait des rencontres. Oui, on a des échanges, mais c'est plus des rencontres d'information. Moi, je leur lance le ministère de l'Éducation. Puis je leur dis aujourd'hui, là, moi, je prends à m'asseoir.
Plus
je prends
une vraie,
des
plus
solutions avec vous autres.
Plus de vrais comptes de vraies rencontres d'écoute et de vraies rencontres d'échanges d'informations pour faire améliorer les choses et que ça amène à quelque chose de concret, en fait.
Oui, mais puis en plus, j'ai envie de vous dire, de prendre en considération que ce qu'on amène, c'est directement des gens qui nous parlent, qui sont sur le plancher des écoles.
Totalement.
Vous savez, on a dit un jour, on élimine les commissaires scolaires. Mais qu'est-ce que ça a fait? On a laissé, après ça, aux dirigeants des centres de services scolaires, des 72 dirigeants des centres de services scolaires, de décider... de comment on va interpréter la consigne du ministère.
C'est ça.
C'est une autre problématique majeure.
Et aussi de centraliser beaucoup plus à l'intérieur des ministères, de centraliser beaucoup plus à Québec, avec des gens qui sont plus technocratiques que liés au milieu et à la profession, ce qui amène beaucoup plus de problématiques et de beaucoup moins de courroies de transmission des informations du terrain jusqu'à la centrale primaire du ministère à Québec, ce qui fait beaucoup de problèmes. Et ma dernière question, donc, avant de nous quitter, c'est qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette rentrée qui approche et qui est dans ces jours-ci, et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter par rapport à la campagne qui va arriver et l'écoute qu'il pourrait avoir par rapport à vos propositions?
Moi, première des choses, en terminant, je veux souhaiter une bonne année scolaire à tout le personnel de soutien scolaire, mais aussi à tout le personnel de l'éducation. Vous êtes des gens extraordinaires qui travaillent là, sans relâche, et ça, il ne faut jamais l'oublier. Il faut reconnaître ces gens-là, les respecter et leur donner la possibilité de se réaliser.
C'est l'une des premières choses.
Deuxième chose, j'aimerais beaucoup que ce gouvernement-là ait un projet d'avenir en éducation en lien avec les besoins humains et non pas en lien avec les besoins et les coûts financiers.
C'est ça.
Bon, c'est une autre chose. J'aimerais aussi que le ministre de l'Éducation, M. Roberge, reconnaisse enfin, pas sur un bout de ligne dans une conférence de presse, mais qu'il apporte des gestes concrets pour le personnel de soutien scolaire, parce que je dois vous le dire, c'est urgent, c'est à notre tour d'avoir le mérite, d'avoir la qualité des conditions de travail, de cesser cette précarité-là pour que cette école-là, tout le monde se sente inclusif dedans
et tout le monde ait la même égalité des chances pour dans sa réussite.
Merci
beaucoup, M. Pronovost, d'avoir été avec nous. C'est très intéressant, c'est une entrevue extrêmement intéressante. Merci beaucoup.
Merci, au plaisir.
Je rappelle que vous êtes le directeur général du syndicat de la Fédération des personnels de soutien scolaire du Québec, et c'est un plaisir de vous retrouver pour une prochaine émission si vous souhaitez venir parler.
Merci.
Merci à vous. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour ce format un peu plus long de questions d'actualité et format estival. Je voulais faire une belle spéciale sur l'éducation et sur les problèmes du secteur. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Julien Corona à la barre, Daniel Fortin à la réalisation. Merci à tous et bonne journée sur Radio VM.